Je vais essayer, moi, de parler et de Rome et de Paris, puisque j'ai regardé, ou tout au moins j'ai analysé depuis longtemps, quand on regarde la saga des villes, comment les villes se copient, et en ce qui concerne ces deux villes, comment elles sont miroirs l'une de l'autre. Et c'est ça qui me passionne. J'avais d'ailleurs commencé comme ça un jour où une mission culturelle était à Paris et s'il y avait un groupe d'Italiens qui venaient là et on me dit on voudrait leur faire visiter Paris, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait leur faire faire? C'était des gens qui connaissaient la plupart des musées et j'ai dit oui, j'ai une idée, on va leur faire visiter tout ce qu'il y a d'Italien à Paris. Ah, ça c'est formidable ça, voilà. Et après je l'ai fait avec des Égyptiens, c'est très drôle, c'est amusant, voilà. Dans cette histoire des villes, c'est assez intéressant de voir l'origine des villes, elle est connue, elle vient du Proche-Orient, elle vient autour du Tigre et de l'Euphrate, c'est passé un peu par le Nil, et quand Rome, la Rome antique s'est faite, elle a été chercher sa légitimité en allant piocher dans des conditions absolument étonnantes, des obélisques ici et là pour les implanter ici et là dans Rome. Ce qui va être intéressant, c'est comment, après la contre-réforme, quand on décide d'embellir, de s'appuyer sur les images, d'embellir les églises, et, idée de Sixte Quint, d'embellir la ville, c'est-à-dire Rome, la première opération qu'il va faire, ça a été d'aller fouiller ici et là pour récupérer les obélisques et les installer dans Rome. C'est d'ailleurs le premier grand travail qu'il fera, le grand travail papal, pour faire référence à l'exposé de M. Lattarget, ça a été de prendre l'obélisque du Vatican et de la déplacer de quelques dizaines de mètres, mais comme il a réussi ça, à partir de là, il a été chercher toutes les autres et installer devant le Quirinal. C'est intéressant cette histoire d'obélisque, non pas parce qu'on en a une qui nous a été offerte et qu'on a installée, que Louis-Philippe a installée place de la Concorde, mais quand la jeune République des États-Unis s'installe, ils n'ont qu'une seule idée, c'est installer une grande obélisque qui va marquer l'aspect capital de cet endroit, dans une discussion qui ressemble terriblement à la décision de prendre Rome comme capitale. On décide de trouver un endroit qu'on appellera forcément Washington, mais ça a été aussi un drôle de débat. Toujours est-il que Charles Quint a une idée qui est formidable, c'est de faire ce plan de perspective qui va relier à travers à une ville très très encombrée, qui va être haussmannien avant la date, qui va faire des rues qui vont relier les grandes basiliques et le Capitole. Et tout est dans un nœud très bizarre, qui est un tout petit carrefour avec quatre fontaines, qui s'appelle justement le carrefour des quatre fontaines, chacune représentant le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, c'est un tout petit truc. Mais quand on est là, on sait qu'on est au cœur du système. Ce qu'on n'a pas saisi, tout ça se passe à la fin du XVIe siècle. Et il y a une chose qui est très importante pour Paris. Non pas que nos princes de l'Église ici ont commencé à copier, mais il y avait un jeune homme qui était assez doué, qui était d'ailleurs au Collège romain chez les Jésuites, et qui a vu, jeune homme, adolescent, tous ses travaux se faire. Et il est fasciné par tous ces travaux qui se passent, qu'il voit, qu'il traverse, et il s'appelle Giulio Mazarin. Et Mazarin, quand il va arriver, d'ailleurs c'est de famille, puisque son frère qui lui ira à Aix-en-Provence fera la même chose. Mais peu importe, dès qu'il va arriver à Paris, qu'il va s'installer, il n'aura de cesse que de faire de Paris une ville comme Rome. Et il pense qu'il faut des architectes, alors il ne va pas chercher Renzo Piano qui n'est pas là, mais il veut absolument que le Bernin vienne à Paris, et il lui dit « il faut venir, c'est formidable ». Et le Bernin, lui, Paris ne devait pas être terrible. Et il n'a pas envie de bouger, il ne bougera pas. Et Mazarin le prend mal, il va donc aller voir l'architecte français le plus en vue, qui était Mansart, qui inventait les mansardes, et il lui a dit, non, faut arrêter tout ça, il faut faire de l'architecture baroque. Et Mansart va commencer à peupler, ou tout au moins faire des tas d'esquisses pour faire des coupoles dans tout Paris, et il y aura une succession d'architectes qui, pendant un siècle, vont peupler ou vont construire sur tout Paris un certain nombre d'édifices baroques. Il y en a des très beaux, comme Saint-Roch, qui est une église totalement méconnue, mais que je vous invite à aller voir et rentrer à l'intérieur. On la voit pas, elle est complètement prise dans les... Mais à l'intérieur, c'est un spectacle absolument étonnant. Le premier grand monument baroque, bien, c'est le Val-de-Grâce. Et puis etc., etc., jusqu'au Collège des Cinq Nations. Ça, c'est pour l'histoire, de captage de Paris d'un modèle romain. Il y aura un retour, c'est que l'homme de confiance de Mazarin, juste après sa mort, il ne sera pas terrible, il piquera toute sa bibliothèque, c'est Colbert, mais il aura quand même une idée vis-à-vis de son mentor. Il aura l'idée de créer l'Académie de France à Rome et de permettre à un certain nombre d'artistes d'aller puiser à Rome la connaissance de l'Antiquité. Et ça, c'est absolument étonnant et c'est tout un moment qui va effectivement ponctuer tout ce siècle. Et puis, il va se passer un grand temps où il va y avoir un grand blanc. Oh, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, a loin à regarder Rome, il s'en fiche un petit peu. Des tas de choses, j'étais à Nancy ce matin. Bon, on invente Nancy, c'est-à-dire qu'on prend dans l'endroit le plus désastreux les fossés, décide de faire la troisième ville de Nancy entre la ville neuve et la ville ancienne. Enfin, et c'est quelque chose, c'est une idée que je trouve très contemporaine, très géniale, d'aller dans les endroits les plus misérables, les plus moches, pour faire du beau. C'est un programme que nous devons mettre en place aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire. Et vous avez cité ma participation au Grand Paris. Le vrai Grand Paris, c'est ça, c'est d'intervenir un peu comme Erré est intervenu sur Nancy. Mais il ne va rien se passer jusqu'à la Convention. Et à la Convention, pour des raisons assez étonnantes, les conventionnels pensent qu'il faut changer Paris. Ils sont propriétaires, ils sont propriétaires de tous les biens, des aristocrates, du clergé, ils ont du foncier, et ils se disent qu'il faut absolument faire quelque chose dans cette ville. Et ils se lancent un programme absolument insensé. Ils disent il faut faire de Paris une ville pas plus belle que Rome, aussi belle que Rome. C'est un beau miroir. Et ils ont une idée qui a été citée par Michel Carmona tout à l'heure. Ils ont une idée, ils ont dit comment on va faire. Alors ils ont décidé de faire un plan. Ils ont réuni un certain nombre d'architectes, de peintres, de sculpteurs. On sait que dans les architectes, il y avait Percier et Fontaine qui interviendront longtemps au cours du XIXe siècle pour faire un certain nombre de travaux, mais qui prendront le nom de la Commission des artistes. On connaît leurs plans, mais peu de leurs travaux parce que tout a brûlé avec l'incendie de l'hôtel de ville qui a permis la reconstruction de ceci à la fin, après 1870, mais toutes ces archives ont disparu, et c'est bien dommage, parce que ça aurait été intéressant de voir ce que représentait justement cet objectif de faire une ville aussi belle que Rome. Il n'empêche que la première avenue qu'ils vont faire, et qui est une vue raisonnable, tout au moins, ou à la déesse raison, c'est une avenue qui va s'appeler l'avenue de l'Observatoire et qui, à partir de l'Observatoire, suit le méridien de Paris. Voilà. Elle est complètement de travers par rapport, si vous regardez un plan de Paris, elle est complètement de travers, c'est cosmique. Et ce plan des artistes va avoir une influence tout au long tout au long du XIXe siècle. Haussmann est dans la mouvance par ses perspectives, donc Napoléon III, j'ai compris que c'est Napoléon III, Napoléon Ier déjà, qui a dessiné un certain nombre de perspectives, qui a nettoyé le cœur du Louvre et entre autres ce quartier qui était autour de la de l'hôtel de Nantes, là où il avait failli, où on avait fait un attentat. Et donc il va avoir d'ailleurs lui il va avoir une vision romaine de Paris, puisque il fera la colonne Vendôme sur le modèle de la colonne Trajane, il peuplera Paris d'un certain nombre d'arcs, dont l'arc du Carrousel dans le Louvre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui gênera des tas de gens. C'est sujet à controverse. Je rappelle que Courbet, pendant la Commune, va décider d'abattre les deux colonnes qu'il trouve honteuses pour Paris. La première, qui est donc la colonne Vendôme, qu'il devra donc payer de ses deniers, dit-on, et l'autre qui était celle-là, c'est plus bizarre, parce que ça rendait hommage aux insurgés de 1830 et 1848, qui est la colonne de la Bastille. Mais là, il s'est loupé, il croyait faire un énorme feu d'artifice en amenant un chaland de pétrole dessous, en y mettant le feu, et en pensant que ça allait être formidable, le feu allait faire fondre cette colonne, et que ce serait un spectacle beaucoup plus beaucoup plus performant que la colonne qu'il a abattue. Eh bien, il n'en est rien été. Le tuyau, ça fait un phénomène physique très connu. Il y a eu tout l'air qui était dans le canal est parti. Et effectivement, au-delà de la colonne de Juillet, il y a eu une flamme qui, dit-on, était visible de Chartres. C'est vraiment, là, il a fait un cierge républicain absolument étonnant. Mais ces colonnes sont restées et l'esprit de Rome, qui tout au long du XIXe siècle est venu ponctuer notre ville, est toujours là. Et il n'a pas été très dur pour moi, avec ces Italiens que je vais promener, de les balader dans les plus beaux endroits de Paris en disant « ben voilà, ça s'est copié là, ça s'est copié là, ça ». Bien sûr, dans un tout autre contexte, il est bien évident que l'architecture n'est pas suffisante si elle n'est pas contextualisée. Et avant les grands projets, les gares, beaucoup de gares se sont installées déjà au bord de la Seine. C'était formidable. On arrivait, particulièrement la gare d'Orsay d'ailleurs, on débarquait, c'était là où arrivaient les chefs d'État. Ils étaient toujours accueillis là. Ils arrivaient au bord de la Seine dans un spectacle en face du Louvre. La gare de Lalou n'est pas terrible. Beaucoup ont voulu la détruire. Il n'empêche que le site dans lequel elle s'inscrit, quelque chose de magnifique. Alors, accompagnant tout ça, on ne peut pas, tout à l'heure il a été dit en introduction qu'il fallait absolument parler du cinéma, on ne peut pas effectivement ne pas prendre en compte tout ce qui a été les spectacles, la culture et la force qu'il y a entre Paris et Rome. Je rappelle quand même que le premier théâtre qui s'appelait le théâtre à l'italienne et qui est devenu l'opéra comique et qui a été l'essence de tous les opéras a amené un certain nombre de choses et de bâtiments et de monuments, dont un grand projet Place de la Bastille, qui viennent rendre hommage profondément à une culture italienne qui, quand même, à Paris, représente une certaine densité d'équipements de grands. Il n'y a pas un opéra, il y en a plusieurs, et c'est quelque chose d'important. Et je voudrais dire deux choses. D'abord, entre cette ville, parce que si on regarde, on se rend compte qu'il y a beaucoup, que le flux est beaucoup plus romain vers Paris que parisien vers les Romains. Je vais un peu faire deux petites choses importantes. L'université romaine est profondément laïque, et ça va tout à fait dans le sens qui a été dit tout à l'heure. Il ne fallait absolument pas qu'il y ait une interférence avec les puissances vaticanes et Rome. Et ça reste toujours quelque chose de très fort. Eh bien, il faut savoir que la première université laïque au monde, elle a démarré d'ici. L'université était primitivement où nous sommes, là, complètement coincée autour de la cathédrale et un certain nombre d'universitaires de l'époque, de clercs de l'époque, ont décidé qu'ils en avaient marre. Ils ont décidé d'aller juste en face, de traverser la Seine et d'aller s'installer dans un quartier qui était le quartier dit latin, qui était l'ancienne ville antique. Ce n'est pas le quartier latin, comme il est dit dans les bateaux-bus. Ce n'est pas le quartier latin parce que c'était le quartier où il y avait les universitaires qui parlaient latin, mais c'était le quartier latin parce qu'il y avait la ville romaine qui était juste en face. Et donc, Paris a inventé sur ce qui était une excroissance ou une colonie romaine sur la rive gauche de la Seine, a inventé la première université laïque dont Abélard a été un grand enseignant. Et puis, pour terminer, je dois dire que quand on a décidé, vous avez cité Madame Banlieue 89, et quand avec Roland Castro, on a décidé de changer ou de chercher à intervenir pour changer l'agglomération parisienne, on avait d'ailleurs une commande dans notre lettre qui disait les banlieues et le Grand Paris. Ça a été une... D'ailleurs, je dois témoigner dans les grands projets que François Mitterrand à Enghien, puisqu'on en a parlé, à Enghien a dit, s'adressant à tous les maires de l'agglomération parisienne, « Faites quelque chose tel que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette idée soit reprise et qu'elle soit mise en œuvre. » Bon, c'est à 25 ans, il a fallu attendre, donc il avait une vision pas trop erronée quand il a dit ça. Mais quand on a fait ce projet de banlieue 89, on s'est dit, changer les choses, c'est des années, des années, des années, on ne verra rien, ou on verra très peu de choses. Il faut donc préfigurer. Et pour préfigurer, il faut faire quelque chose de festif. Et on a tout de suite été à Rome, voir quelque chose qui se mettait en œuvre et qui était quelque chose de très intéressant, qui s'appelait les Stati Romano. Et on a été regarder comment ils faisaient sur tous ces aspects, sur l'aspect cinéma, théâtre, spectacle, bal, animation, découverte de lieux impossibles. On a décidé de mettre ça un petit peu en œuvre. Et à l'heure actuelle, si vous venez l'été, si vous allez l'été sur un grand projet qui s'appelle La Villette, et que vous assistez à ce magnifique spectacle de cinéma en plein air sur des chaises longues, vous avez l'héritage, quelque part, de cette action de préfiguration qui s'appelait Faites et Forts et qui avait été regarder ce que les Romains avaient réussi en faisant leur animation d'été. Je vous remercie.